Alors à mon tour aussi de remercier Françoise, Michel, Catherine pour nous permettre ce travail en réseau et puis surtout de mettre en débat nos idées et nos approches. Et donc c'est vraiment un luxe qui nous est offert, donc grand merci de la part de toute l'équipe de Toulouse. Alors pour rebondir un petit peu sur la présentation de Richard, je vais m'atteler à une autre dimension qui est à relier, bien sûr, à ce que vient de proposer Richard, puisque nous partons du principe, bien sûr, qu'il n'y a pas d'évaluation d'une pratique professionnelle sans ce travail préalable de l'analyse. Pour nous, vraiment, là, il y a une première marche, celle que vient de nous proposer de façon très, très, très précise Richard, et... sans ce travail préalable, l'évaluation ne peut pas être légitime, ne peut pas être objective ou objectivée, ne peut pas être fondée et crédible pour les acteurs que nous rencontrons sur le terrain de l'activité professionnelle. Alors je vais vous présenter une réflexion en quatre points. D'abord un tout petit état des lieux autour de la question de l'évaluation dans le système éducatif. Puis je viendrai sur des questions qui nous apparaissent fondatrices d'une professionnalisation à l'évaluation, puisqu'il est bien question ici même d'une recherche-formation. Donc c'est la connaissance préalable des obstacles qui brouillent un petit peu cette pratique évaluative qui est toujours en devenir et qui est toujours questionnée. Et puis je vous proposerai une réflexion, celle de l'équipe, autour de l'évaluation-régulation, ce modèle qui nous est cher et qui constitue notre fondement théorique de base. Et je conclurai autour de l'atelier de cet après-midi. Alors, dans un premier temps, l'évaluation, bien sûr, c'est une pratique sociale qui est aujourd'hui largement débattu, je dirais dans la société en général, mais pour ce qui concerne dans le système éducatif, qui fait valoir, bien sûr, un mode de gouvernance très particulier et qui est un mode de gouvernance très souvent régi par le pilotage au regard des indicateurs internationaux ou nationaux. Et donc ce mode de pilotage-là génère, dans le contexte des enseignants, certaines frilosités, parfois le sentiment d'une énorme contrainte. Vous ne pourrez pas ne pas observer les enseignants actuellement dans les classes avec les tests et les prises de position des uns et des autres sur les conditions de passation des tests, sur la lecture d'une pratique qui consiste à finalement tenter de faire un cliché à un moment donné de l'état des acquisitions à l'école. Donc ce mode de gouvernance-là génère une lecture de l'évaluation qui, de mon point de vue, est une lecture extrêmement réductrice, et pourtant c'est ce que retiennent les enseignants. Et donc cette lecture réductrice, je vais essayer quand même de m'en défaire, de faire un pas de côté pour pouvoir vous dire qu'il y a bien sûr avec l'activité évaluative des promesses, des choses à gagner, des dimensions qui concernent le développement professionnel des enseignants qu'il nous faut encore valoriser sur le terrain, puisque qui dit évaluation dit en général réprobation, déni, pratique de contournement, pratique clandestine dans les classes, dans les établissements, dans les universités. Donc on est au départ avec un problème assez important qui fait que finalement on a un malaise autour de l'évaluation, et l'évaluation est à entendre sous le régime de la contrainte. Les acteurs sont dans une situation de contrainte, faire des évaluations qui, finalement, donnent une dimension tout à fait partielle de ce que peut contenir une pratique évaluative. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y a des gestes difficiles à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des élèves en difficulté. Hein. Alors vous savez qu'on est tous tiraillés, que l'on soit enseignant en maternelle, que l'on soit enseignant au lycée, collège ou à l'université, on est tous tiraillés entre l'équité d'accès au savoir et puis une équité d'accompagnement pour tous les élèves. Et donc là, il est très très difficile de trouver la juste mesure dans le type de retour que l'on fait et dans l'accompagnement le plus fin que l'on peut proposer pour aider les élèves ou les stagiaires ou les étudiants en difficulté. Enfin, il y a des compétences autour de l'évaluation à construire. On a depuis 4-5 ans des recherches, c'est moi qui sonne, j'en suis désolée, des recherches qui tendent à montrer les difficultés que rencontrent les professionnels qui accompagnent les stagiaires dans leur métier sur autour et sur l'évaluation de type professionnel. Alors je repère rapidement trois points. Je dirais qu'il y a des problèmes de nature éthique. Porter un regard bienveillant mais exigeant envers un stagiaire, et on a des travaux là-dessus, notamment, ben, je pense à Christine Lebel au Canada, mais à Christiane Goyer également, qui ont montré quelquefois des relations de complaisance, parce que l'acte d'évaluation est un acte qui est très coûteux pour le formateur, le maître formateur, l'accompagnateur, et qui essaie d'éviter finalement ce rapport de confrontation sur lequel je reviendrai tout à l'heure, puisqu'évaluer, c'est de toute façon mettre en œuvre un rapport de confrontation à un référentiel. Et toutes les bonnes stratégies sont inventées pour euphémiser différer ce temps et en même temps euphémiser ce qu'il retourne ou ce qui est provoqué lors de la confrontation. Un deuxième niveau de difficulté, qui est un niveau de difficulté que je qualifie, moi, en termes de compétences sémiotiques, c'est-à-dire savoir observer, savoir entendre les dits et les non-dits dans une situation d'évaluation. Et là-dessus, les formateurs et les maîtres formateurs nous disent à quel point c'est difficile de prélever des indices en situation, à quel point il est difficile aussi de générer une parole, je dirais, confiante de la part de l'évalué quand on est dans une situation institutionnelle d'évaluation. Troisième point de difficulté qui est lié au précédent, ce sont les compétences dialogiques. Construire un dialogue professionnel autour d'une activité réalisée ou suite à l'activité réalisée, c'est éminemment difficile. Bien souvent, les formateurs nous disent « le silence est tel que je prends la parole et que je m'engouffre dans ce silence pour apporter mes éléments d'observation, mes éléments d'expertise ». Donc là, on a des compétences dialogiques à faire valoir et on fera une différence sur ce que nous appelons à Toulouse le donner conseil avec le tenir conseil, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, dans l'interaction professionnelle, puisque nous posons la question de ce moment particulier qui est celui de l'évaluation en situation professionnelle, il y a cette idée que l'évaluation devrait, comme pour l'analyse, favoriser le développement professionnel. Mieux que cela, ajuster, permettre des ajustements en situation professionnelle et bien sûr, en écho, favoriser le développement professionnel de l'acteur. Cela a un coût, ça veut dire qu'effectivement, l'ajustement n'opère pas de façon magique. Et là, vous savez, les bonnes vieilles lois de l'apprentissage reviennent. Nous apprenons de nos collègues chercheurs qui ont fait ces travaux depuis plus de 50 ans, que le renforcement positif est une loi fondamentale de l'apprentissage et que si vous voulez effectivement solliciter des ajustements des professionnels lorsque vous êtes en situation d'évaluation, la valorisation de l'activité, la valorisation du porteur de l'activité devrait l'emporter sur le repérage immédiat des dysfonctionnements ou les propositions immédiates ou les conseils immédiats de pratiques à revoir, de points d'amélioration. Donc, voilà pour ce qui est du contexte. Maintenant, en tant que chercheurs en évaluation, nous nous posons deux questions quand il s'agit d'approcher le terrain professionnel. Ce terrain professionnel, c'est celui, bien sûr, qui va concerner les maîtres formateurs, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. Et donc, nous nous posons la question des confusions que nous observons, que nous entendons, que nous repérons, que nous analysons. Et j'en proposerai deux devant vous ce matin. La première, il me semble extrêmement important de pouvoir travailler avec les acteurs sur l'idée que analyser, ce n'est pas évaluer, et qu'évaluer, ce n'est pas analyser. Ça, c'est toujours mêlé dans les dialogues professionnels. Vous verrez d'ailleurs que dans les ateliers, nous montrerons qu'il y a là un court-circuit entre l'analyse et l'évaluation. Alors, je répète, en ce qui nous concerne, je ne vais pas reprendre les propos très précis et très clairs de Richard, mais du point de vue de l'évaluation, il y a trois dimensions indispensables à prendre en compte. Évaluer, c'est bien une attribution de valeur, c'est bien un engagement du professionnel sur un souhaitable de l'activité, et c'est au-delà de ces deux points-là, je dirais une vision beaucoup plus large qui consiste à dire qu'il y a un horizon projectif du professionnel vers une activité non pas efficace, et là je ferai la différence avec l'idéologie actuelle, mais une activité de qualité. Et donc dans l'activité de qualité, j'intègre la dimension d'efficacité. Alors, vous voyez que cette petite schématisation me permet de revenir sur le fait que l'évaluation, c'est une opération fondamentale de confrontation à un référentiel. Là-dessus, nous avons des éléments extrêmement importants. On est bien d'accord pour vouloir confronter tous ici. Nous passons notre temps à faire des opérations d'évaluation, je dirais, un petit peu rapides, et nous sommes très, mobiles pour confronter une situation à une dimension idéale. Bon. Bien là, il va falloir bien montrer notre professionnalité. Nous ne travaillons pas sur l'idéal, nous travaillons sur le souhaitable. Et donc, la grande difficulté, justement, dans la relation d'évaluation, c'est de faire en sorte que l'acteur qui est en situation, en posture d'évaluer, n'entende pas le discours de l'évaluateur comme étant de l'ordre de l'idéal, mais de l'ordre du souhaitable, du possible, du probable à ajuster. Et donc, tout le problème aujourd'hui, c'est de faire descendre de cet horizon inatteignable qui relève de l'absolu, de l'idéal, de la perfection, quelque chose qui est de l'ordre de l'amendable, de l'ajustable, du souhaitable. Alors cette opération de confrontation, je vous le disais tout à l'heure, elle est très souvent sur le terrain un petit peu escamotée, un peu esquivée, parce qu'elle est, difficile à vivre, parce qu'effectivement c'est là que se joue ce que nous appelons nous un processus de rationalisation sur l'activité. L'activité en tant que telle, n'est pas rationnelle pour elle-même. Elle suppose effectivement le processus d'analyse dont a parlé Richard, et elle suppose ce moment de confrontation à un référentiel. Alors vous allez me dire, c'est de l'idéal ou du souhaitable ? Nous travaillons sur des référentiels qui relèvent du souhaitable. Et bien sûr, cette opération de confrontation qui rapproche une activité d'un système de référence nous amène à construire, à élaborer une interprétation. Alors, ce moment-là de distinction entre l'analyse et l'évaluation est capital pour la conduite des entretiens d'évaluation. Et on le voit bien sur le terrain, les deux sont très, très imbriqués, et il y a des situations où l'évaluation, je dirais, un peu sauvage l'emporte sur l'analyse. Deuxième moment important lorsqu'on travaille sur l'évaluation, et là, c'est un véritable obstacle épistémologique selon nous, ça c'est la position de Toulouse, puisque on met sur le même plan juger et évaluer. Nous considérons, et je considère, je dirais à la première personne, qu'il y a un amalgame entre le sens commun sur le jugement social et le concept scientifique. Et donc, l'acte de juger consiste à mettre en œuvre finalement un acte décisionnel, alors qui suppose bien sûr un raisonnement, mais sur lequel on ne revient pas. Il y a donc une prise de décision fondatrice du jugement. L'évaluation, pour peu que je me penche sur l'étymologie, j'entends bien le mot valeur, et donc il y a bien derrière l'idée de valeur le positionnement d'un sujet sur un contenu de pensée. Alors ça, c'est la définition de Paul Ricoeur. Une valeur, c'est se positionner sur un contenu de pensée. Donc évidemment, quand Claude Tello dit que vaut l'enseignement en France, il se pose la question de la valeur de l'enseignement en France, et donc quel positionnement pouvons-nous tenir par rapport à l'état des lieux que nous avons mis en œuvre. Le préfixe « et » signifie au moins trois choses. Interroger la valeur de quelque chose. Confirmer la valeur de quelque chose. Réguler la valeur de quelque chose. Vous voyez bien que lorsqu'on regarde de près ce qu'est interroger, confirmer, réguler, on se situe bien dans une activité interprétative et nos pères, les chercheurs qui nous ont précédés, nous ont formés à cette activité interprétative en nous disant deux, trois choses fondatrices de l'évaluation. Il y a une intersubjectivité inhérente à l'acte d'évaluer. Il y a donc un point de vue relatif, celui de l'évaluateur, et un évaluateur ne vaut pas un autre évaluateur. Il n'y a pas d'interchangeabilité des évaluateurs. Donc ce qui vaut à un moment donné avec un maître formateur qui accompagne un stagiaire ne vaut pas pour un autre maître formateur qui accompagne le même stagiaire. Alors, moi je reprends à mon compte les propos de Cardinet, qui est aujourd'hui la plus grande figure en évaluation en Europe, qui disait en 1992, évaluer n'est pas juger. Évaluer n'est pas juger, pourquoi ? Alors c'est peut-être pour ça qu'il faut que j'insiste. Évaluer n'est pas juger parce que on aurait tendance finalement à faire porter ou à faire pencher l'acte d'évaluation vers une normativité doublée d'une rationalisation. Donc lorsqu'on regarde de très très près les processus évaluatifs en situation professionnelle, on se rend bien compte qu'il y a toujours une couleur subjective, il y a toujours une dimension, émotionnelle, affective. Et donc, nous reprenons cela à notre compte dans l'évaluation. Alors, le jugement a très bonne presse en ce moment. Les collègues en Suisse, en Belgique, au Canada, reviennent à l'idée d'un jugement professionnel. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec eux pour dire que le jugement professionnel, c'est un acte cognitif qui est de l'ordre de la décision. Je ne suis pas du tout, en revanche, en accord avec eux lorsqu'ils disent que le jugement, ça relève ou ça conduit à une évaluation. C'est pas la même chose. Alors, vous verrez qu'il y a des travaux absolument éminents sur le jugement, notamment dans le monde anglo-saxon, et ils convergent tous vers cette idée qui est celle de prendre la décision, trancher pour faire. En évaluation, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est construire un système d'appréciation d'une situation donnée, et ce système d'appréciation, il va être ensuite discuter, parce que bien sûr, vous savez très bien que l'évaluation ne s'en saisit pas comme cela. Donc notre approche est une approche qui est celle de l'évaluation-régulation. Toutes les recherches globalement sont dans cette idée d'une évaluation-régulation, c'est-à-dire pouvoir donner du sens et envisager l'idée que finalement ce qui a été mis en œuvre à un moment donné mérite, et je reprendrai les termes de Maillien, une continuité. C'est-à-dire c'est vraiment l'idée que l'action n'est jamais finie, elle se continue. Donc pour valoriser cette idée de continuité de l'action, bien on se pose la question de l'après-évaluation et donc celle de l'ajustement de l'acteur, celle de la régulation. Hein. Alors, très rapidement, je n'ai pas le temps de vous parler des paradigmes de l'évaluation, mais j'y reviendrai peut-être demain si ça vous intéresse. Très rapidement, aujourd'hui, nous baignons dans un paradigme qui est celui de la gestion. Lorsque nous travaillons sur l'évaluation dans une interaction professionnelle, nous cherchons à changer de paradigme, c'est-à-dire à faire valoir un autre paradigme qui donne une place plus conséquente à l'acteur. Pourquoi ? Ben parce qu'on postule derrière l'opération d'évaluation de possibles développements professionnels. Et donc, c'est l'idée qu'on va se situer dans le paradigme de la reconnaissance. Mais j'y reviendrai si vous le souhaitez demain. Enfin, vous voyez bien que l'évaluation ne peut être déconnectée de l'idée de développement professionnel. C'est-à-dire que nous allons réfléchir à la fois sur les processus d'accompagnement à travers les médiations formatives, sur la fonction dialogique que nous appelons conseil et sur les transactions interpersonnelles qui permettent une reconnaissance ou au contraire enlèvent toute possibilité de reconnaissance. Donc, notre travail, c'est de dire aujourd'hui que l'évaluation, que l'on se situe dans un processus d'accompagnement d'un enseignant, que l'on se situe dans le cas d'une visite formative ou bien dans celui d'une inspection, l'évaluation dans l'interaction professionnelle part, un, du principe qu'il n'y peut pas être question d'évaluation sans analyse, je n'y reviens pas, mais surtout, que le moment de l'évaluation commence avec la confrontation à un référentiel qui suppose un rapprochement entre deux éléments, qui bien sûr, par nature, suppose un écart. Il n'y a jamais d'opération d'adéquation forte, mais il y a toujours des seuils, des approchements, des processus, qui sont de l'ordre de la proximité, d'un air de famille, quelque chose comme cela. Donc l'idéal, non, mais un souhaitable par travail d'approche et de familiarité. Ce processus conduit à l'interprétation, qui est bien pour nous l'occasion de construire du sens avec l'acteur, ou en dehors de l'acteur, quelquefois, mais que cette interprétation-là n'aura aucun effet si nous ne veillons pas à un processus de communication. C'est là que nous intervenons à Toulouse sur l'importance de la relation dialogique et l'importance le moment du conseil, c'est-à-dire soit construire des perspectives d'action en aidant l'acteur de façon beaucoup plus, soutenu à travers ce que l'on peut appeler le donner conseil, soit par la qualité du dialogue qui est instruit, mis en œuvre, permettre à l'acteur d'entrevoir lui-même les ajustements possibles et donc de faire valoir ce que l'on appelle le tenir conseil, décider dans une coélaboration de perspectives d'action. Mais là encore, si je ne suis que dans un travail, de rationalisation des choses, me veiller à ce moment que nous appelons les médiations formatives, ça peut être finalement une simple spéculation. Nous pouvons nous arrêter au point 3 et nous situer dans la spéculation de ce que l'on peut ajuster, c'est-à-dire que oui, j'ai fait l'effort d'aller jusqu'à la prévision d'autres situations possibles, mais j'en reste là. Il me manque une énergie. Il me manque l'idée que, moi, en tant qu'acteur, je suis porteur de ce plus-là, de cette plus-value de l'action que je viens d'envisager. Et donc, il nous semble, alors là, on s'appuie sur les travaux de Barbier, les transactions de reconnaissance, sont très importantes parce qu'elles permettent justement d'enrôler l'acteur, c'est-à-dire de lui faire prendre conscience qu'il est porteur de cette plus-value de l'action et qu'il peut, parce qu'il est porteur de cette plus-value de l'action, se projeter dans le contexte et finalement basculer dans des ajustements. Si bien que nous arrivons à cette boucle-là, analyser, confronter à un référent, interpréter, communiquer, reconnaître. Mais vous voyez, il manque une chose essentielle, c'est le mot qui figurait tout à l'heure dans le modèle théorique, c'est celui de la régulation. Et donc la régulation signifie pour nous que l'évaluation n'a pas vraiment de pertinence si elle ne débouche pas sur la régulation. Et ça nous amène finalement à vous dire que on est d'accord sur l'importance de l'analyse. Nous sommes d'accord sur l'importance des travaux de nos prédécesseurs sur la confrontation à un référentiel et la construction finalement d'une interprétation. Là où nous pensons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et là où la recherche se situe aujourd'hui, c'est sur les deux points qui sont dans la flèche, la communication, ce que nous appelons nous ici, à Toulouse évaluation conseil, et la reconnaissance de l'acteur pour permettre l'envie d'agir autrement, pour permettre l'ajustement. Donc d'autres disent, je pense à Eccles, disent que pour qu'un sujet s'engage dans une tâche, il faut qu'il puisse donner, accorder de la subjectivité à la tâche. Eh bien, nous pourrions dire que pour qu'un acteur qui a vécu un processus d'évaluation avec un expert s'engage dans des processus d'ajustement, il doit pouvoir entendre et comprendre que dans sa tâche, il y a de la richesse, il y a de l'intérêt, il y a de la valeur, et que cette valeur, il en est le premier promoteur. Donc, si nous ne travaillons pas à la fois sur ce processus de communication et ce processus de reconnaissance, nous resterons avec des acteurs qui auront fait un bel effort intellectuel, mais qui n'auront pas été jusqu'à l'ajustement. Voilà.